France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visite et initiative. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 7 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Le 22 mars signe la Journée mondiale de l'eau. Nous nous penchons aujourd'hui sur notre fleuve Loire. Et puis l'Anjou bénéficie d'un grand patrimoine minier qui sera à l'honneur au château du Plessis-Massé. Mais tout de suite, on commence avec vous, Marie. La ville devient un terrain de jeu et votre invitée Caroline Gauthier a créé un jeu de piste urbain pour découvrir Angers, résoudre des énigmes et gagner des récompenses. Et maintenant, votre mission, Marie. Débloquer un maximum de Whiz bases et collecter des Whizzy.
Avec Caroline Gauthier, créatrice de UrbaWhiz, une application de jeux de piste urbain, nous partons à la découverte de la ville d'Angers. Caroline, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous étiez hier au centre des congrès pour le printemps du tourisme organisé par l'ESTUA, l'école de tourisme d'Angers. Et c'est vrai, le printemps est le moment idéal pour découvrir la ville avec le jeu de piste mobile que vous avez créé. Comment s'est passée cette journée alors ?
Très enrichissante, beaucoup de rencontres, vraiment, c'était le tout premier salon d'UrbaWhiz, donc très chouette aussi de pitcher le projet, de le challenger avec plein de publics différents, aux étudiants, professionnels du tourisme, c'était une chouette journée.
Alors, un jeu de piste, tout le monde sait ce que c'est, mais avec votre jeu, on télécharge une application sur son mobile, et après, comment ça marche ?
Eh bien après, vous avez une carte qui s'offre devant vous où les 75 balises Whizbase apparaissent sur votre carte. Dans la vie, en concret, dans la ville, les Whizbase prennent la forme de QR codes qui sont cachés à proximité de lieux d'intérêt. Armé de votre téléphone, donc vous allez les scanner, vous allez avoir une énigme ensuite à résoudre. Et si vous avez réussi à vous creuser les méninges et que vous avez la bonne réponse, eh bien vous avez du contenu sur le patrimoine, sur le lieu où vous vous trouvez. Et en plus de ça, le bonus, c'est que vous gagnez des petites pièces virtuelles qui s'appellent des Whizzy et que vous pouvez échanger contre des récompenses chez un réseau de partenaires du centre-ville.
Alors on est géolocalisé, c'est-à-dire que à l'endroit où on est, on trouve une balise proche.
C'est ça.
Et c'est facile, si je bloque, ça se passe comment ? Parce que moi, j'ai carrément bloqué au départ, je ne suis pas très douée, mais, mais si ça se fait, hein. J'ai bloqué au départ. Mais alors si on bloque, admettons, voilà, je suis un
si
peu loin dans le jeu.
Pas, et que, ouais, si vous ne trouvez pas la balise ou si vous ne trouvez pas l'énigme.
Alors, si vous ne trouvez pas la balise, on est un peu fichu. Hein.
Si vous ne trouvez pas la balise, effectivement, c'est problématique. Voilà. Mais normalement, déjà, si vous ne trouvez pas la balise, vous avez une jauge de distance. Donc déjà, elles sont à peu près, vous allez pouvoir vous rapprocher au maximum. Et en plus de ça, vous avez un indice pour vous dire vers quel type de mobile urbain, par exemple, oui, regarder. Et ensuite, si vous êtes bloqué à l'énigme...
Premier indice pour trouver le QR code.
Voilà.
Et après, quand on a le QR code,
quand vous avez le
on
QR
scanne.
Code, exactement, eh bien, vous avez en fait un ou deux indices possibles pour valider votre énigme. Et si vraiment, ça fait un moment que vous êtes dessus et que vous en avez marre, vous avez un petit bouton pour passer l'énigme et du coup, avoir quand même le contenu historique affiché. Mais par contre, vous ne gagnez pas de Whizzy.
Ah.
C'est la contrepartie.
Alors venons-en au Whizzy, parce que bah, jouer c'est bien, hein, mais gagner c'est bien mieux. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on gagne ?
Eh bien, vous gagnez des bons de réduction ou alors des produits offerts. Par exemple, je pense à Pokino, qui est du coup un street food de Pokéball.
Rue des Poliers ?
Voilà,
rue Saint-Lô.
Voilà, rue Saint-Lô, où vous avez une réduction sur votre plat. Je pense au Bibliovore, où vous avez un livre offert. Je pense à la Grappe d'Or, où vous avez un café pour 1 €, par exemple. Voilà, l'idée, c'était vraiment de montrer... Alors, le patrimoine de la ville historique, mais également le patrimoine économique avec, voilà, c'est...
Une vingtaine de partenaires, alors, pour...
Ouais, voilà, ouais, ces commerçants qui font vivre, en fait, qui sont indépendants et angevins et qui font vivre aussi notre centre-ville.
Donc, il y a un côté chasse au trésor.
C'est ça.
Voilà, jeu de piste et chasse au trésor. Alors, l'utilisation d'une application mobile pour ce jeu, pour vous, c'est quel atout pour un joueur ? En dehors du fait qu'on est finalement dans l'air du temps, quoi. Maintenant, on joue avec son téléphone. Donc.
Oui, voilà. Alors, mais à l'origine, Urbawiz, j'aurais aimé qu'il ne soit pas forcément connecté, mais effectivement, la réalité nous rattrape. Et aujourd'hui, c'est quand même le plus facile. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un accès à Internet. Et l'objectif d'Urbawiz, c'était vraiment la liberté. Si vous avez juste 10 minutes en rentrant du travail, vous trouvez une balise, vous avez votre téléphone, eh bien, vous la scannez. Si, par contrario, vous avez toute une après-midi en famille, vous voulez explorer la ville, vous voulez en faire 10, eh bien, c'est pareil. C'est vraiment l'aspect pratique et liberté, en fait, le choix de l'application.
Alors, pour le mois de mars, c'est le mois de l'égalité en France. Vous avez mis en place des balises un peu spéciales. Des whiz-bays, des balises, et c'est un parcours matrimonial, là.
C'est ça. Alors, en fait, il a commencé le 8 mars, ce parcours, du 8 mars au 31 mars. 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et en fait, ce sont 12 balises éphémères et gratuites qui présentent 12 portraits de femmes remarquables qui ont marqué le matrimoine angevin.
Va de la reine Aliénor
d'Aquitaine, exactement.
La photojournaliste. La plus jeune, malheureusement décédée, mais la plus jeune,
Lepage.
C'est Camille Lepage, qui est la photojournaliste.
Exactement, la sportive Claire Supiot, ouais. Ou alors la pilote Virginie Guyot. Voilà, vraiment, c'était essayer de prendre un panel, forcément 12, c'est restrictif. Hein. En fait, toutes ces femmes, elles sont issues de l'annuaire Femmes Remarquables qui a été créé par la Jeune Chambre économique d'Angers, et qui a été repris par la ville d'Angers. Donc il y avait 49 portraits de femmes et moi j'ai extrait 12 femmes qui me parlaient selon mes convictions. Et puis d'essayer d'avoir un maximum de domaines aussi sportifs, culturels. Il y a Jeanne Moreau aussi, ouais. Il y a Madame Claude qui fait souvent sourire parce que c'est un parcours assez atypique mais qui mérite d'être souligné.
Voilà. Est-ce que ça a marché là? Parce que c'est gratuit, c'est là, dans votre application il y a une vingtaine de balises qui sont accessibles gratuitement.
C'est ça, sur les 75.
Celles-ci, ces 12 là, sont accessibles gratuitement.
Oui.
Voilà. Ça marche là? Les gens les trouvent?
Ouais, ça fonctionne. Les gens trouvent. Après, malheureusement, on n'a pas eu de pluie depuis très longtemps. La sécheresse s'en joue.
On en a entendu parler.
Voilà. Mais le week-end où c'est parti, où il y a eu la plus grosse communication, ça a été un déluge le samedi dimanche. Voilà. Donc, du coup, ça a été problématique. Mais je pense qu'on est à pas mal de connexions aujourd'hui. Je suis très contente. Il reste un dernier week-end. Donc. C'était un événement pour rebooster un petit peu, mettre une petite actualité sur Urbawiz et qui sert des convictions en plus qui me tiennent à cœur. Donc,
bien sûr. Vous l'améliorez sans arrêt, votre jeu, parce qu'il n'y avait pas de classement. Maintenant, il y a un classement. Au départ, il y a un an à peu près.
Exactement.
Il n'y avait pas de classement. Maintenant, on est classé. Hein. Donc, on voit qu'on est tout en bas, par exemple, pour moi.
Oui, peut-être. Après,
ça stimule. Quoi. C'est comme
D'apporter des mises à jour régulières. C'est important pour faire vivre une application de toute manière.
Voilà. Vous êtes une passionnée de jeu.
Exactement.
Depuis toute petite, vous êtes tombée dedans. Est-ce que vous avez d'autres idées pour Urbawiz ou même d'autres idées de jeu?
D'autres idées pour Urbawiz, oui. Je voudrais partir à la conquête d'autres villes parce qu'il y a vraiment des patrimoines qui sont très chouettes. Donc on est je dis non, on est juste toute seule dans ce projet. C'est moi, mes amis imaginaires. j'ai des villes en tête. Aujourd'hui, je suis en travail dessus. Donc. Je vais pas forcément diffuser l'information pour l'instant, mais j'ai pas mal d'idées. C'est un peu le problème d'ailleurs, j'ai peut-être trop d'idées des fois.
Non, c'est bien. Vous êtes joueuse et chef d'entreprise. Caroline Gauthier, bien, merci beaucoup. Donc, tous à vos portables. Il y a 75 whiz-bays à découvrir. À bientôt.
Merci beaucoup.
Et tout de suite, on écoute Nodin qui sera au Chabada le 1er avril prochain avec Mabel.
Le soir, la tête sur l'oreiller, elle m'empêche de dormir. J'y penserai jusqu'à ce que j'en croise une autre qui m'empêche de dormir. Elles habitent mes nuits, elles font le beau temps, la pluie. Mais elles m'apportent autant de plaisir et de soucis qu'elles font partie de ma vie. Chaque fois que je sors, la rue est un spectacle merveilleux. Où je les vois se mouvoir rayonnantes et j'en tombe très vite amoureux. J'ai le cou qui se coince quand au carrefour j'en croise une belle à crever. Elle pou qui grimpe si elle arbore deux pare-chocs chromés. Je t'avoue que je préfère quand elles ont soufflé leurs 45 bougies. Elles sont moins performantes que les jeunes, mais c'est pour elles que je rougis. Avant le net, j'achetais en loose des mervues spécialisées. Je louvoyais pour pas être la risée. Maintenant y'a la navigation privée, je peux plus me griller. Et qu'on suce les annonces en restant sur mon canapé. Tout ça prend des proportions délirantes. Je passe plus de temps sur mes sites que sur le travail que je dois rendre.
On est toujours dans Franche Culture sur Radio Campus. Et maintenant, on va parler de la Loire dans tous ses états avec vous, Isabelle.
Oui, place à la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe et à ses multiples paysages. Bancs de sable, îlots, forêts alluviales, une mosaïque de milieux naturels offrant une grande biodiversité. Au gré de vos promenades, vous pourrez croiser les routes d'un ragondin ou apercevoir un héron cendré, des aigrettes ou des cygnes en train de s'envoler majestueusement. Le problème, quand même, c'est que ce beau spectacle risque d'être gâché par le réchauffement climatique. Le lit de la Loire, bien que regonflé par les récentes averses, a rarement été aussi bas en fin d'hiver et laisse présager un été compliqué. Alors, pour attirer l'attention sur l'urgence à protéger notre ressource en eau, et particulièrement celle de la Loire, notre invité Yannick Sourisseau, aujourd'hui photoreporter, lance un appel via la plateforme de financement participatif Ulule pour produire une exposition de photos et un film documentaire. Yannick Sourisseau, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous menez aujourd'hui une grande campagne de sensibilisation. Alors, pourquoi cette démarche ?
Parce que l'an dernier, en prenant des photos et surtout en survolant la Loire avec mon drone, je me suis aperçu qu'elle était complètement asséchée, qu'elle tenait presque de l'ouest africain. Et ça m'a interpellé, j'ai pris tout de suite les côtes de la Loire pour voir qu'elle était descendue relativement bas, beaucoup plus bas que les années précédentes. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'interpeller aussi mes concitoyens en préparant une expo photo, en leur montrant justement toutes ces difficultés que rencontre la Loire aujourd'hui.
Alors, vos photos et votre documentaire vont nous montrer cette sécheresse grandissante. Selon vous, quelles sont les solutions à mettre en place ?
Déjà, utiliser moins d'eau. L'industrie aujourd'hui pompe énormément d'eau, l'agriculture aussi. On construit des piscines non loin de la Loire, alors qu'on pourrait se baigner. Moi, quand j'étais jeune, je me baignais dans la Loire. On pourrait presque se baigner dans la Loire encore aujourd'hui, quand il y a de l'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de solutions pour l'économiser. On ne va pas faire pleuvoir, ça c'est sûr, on peut danser comme les Indiens, il ne pleuvra pas plus que ce qu'on a eu au mois de mars et pas assez l'hiver, mais on peut surtout économiser en pompant moins, en irriguant différemment, en construisant peut-être moins de piscines et peut-être qu'on arrivera à conserver cette eau qui va devenir de plus en plus rare.
Mais alors justement, quel est l'objectif de votre démarche ? Est-ce que c'est informer le grand public ? Est-ce que c'est pousser les communes à agir ? Est-ce que c'est informer les agriculteurs ?
Eh bien, un peu les trois à la fois. C'est-à-dire à la fois, puisque certains se disent « c'est pas moi, c'est l'autre ». Moi, je consomme pas beaucoup d'eau, je fais attention, mais c'est la centrale nucléaire qui en pompe un peu trop à côté, ou c'est l'agriculteur qui arrose en pleine journée. Tout le monde se rejette la pierre, mais tous, nous avons quelque chose à faire aujourd'hui pour économiser. On dit souvent les petites gouttes font les grandes rivières, mais c'est justement les petites économies qui vont permettre à la Loire de s'en sortir.
Alors, cette problématique impacte tout le monde. Est-ce que vous avez une écoute bienveillante, justement, de la part des communes du territoire ? Et est-ce qu'elles sont prêtes à vous aider ?
Alors, justement, j'ai déjà rencontré des collectivités. Je leur en ai parlé en amont, parce que d'abord, je souhaite les solliciter dans le cadre du film documentaire qui va accompagner l'exposition, c'est-à-dire leur donner la parole. Le film documentaire, ce ne sera pas un film à charge. Je ne m'appelle pas Élise Lucet et on ne va pas faire un cache investigation sur la Loire pour savoir qui est responsable de trop consommer ou pas. Simplement que chacun puisse témoigner et que chacun puisse amener des solutions. Les solutions, elles existent. Il y a des maraîchers aujourd'hui qui ont réussi à économiser 75% d'eau. Ça peut être un exemple pour d'autres. L'idée, c'est vraiment de citer tous ces exemples, toutes ces prises de conscience pour que, mise bout à bout, puissent enfin économiser l'eau qui sera de plus en plus rare.
C'est-à-dire que pour le documentaire, vous avez rencontré des agriculteurs, vous avez rencontré des maires, qui avez-vous vu ?
Alors j'ai surtout rencontré des maires, parce que c'est ce qui m'intéressait en premier lieu. La plupart des maires ligériens travaillent avec les agences de bassin, et donc sont très impliqués dans cette démarche, et en particulier le maire des Ponts de Cé, Jean-Paul Pavillon, qui travaille sur la gestion de l'eau potable. Et donc, c'était des personnes très intéressantes. Je dois rencontrer également Christophe Béchu, puisque c'est le ministre de l'écologie. Et donc, il doit, en principe, être au fait de ce problème. Et malgré toutes les critiques qu'on pourrait lui porter, même si ce n'est pas un écologiste dans l'âme, il est là pour fédérer, justement, toutes les structures et lui dire aussi ce que nous, on en pense, ce qu'en pensent les utilisateurs. Donc, demain, par exemple, je suis à Mauche-sur-Loire, sur les bords de la Loire également, pour une journée sur l'eau. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'eau, donc j'en profite pour demander à tous les élus de prendre conscience et de m'accompagner dans ce projet.
Et Christophe Béchu vous a prêté une oreille attentive ?
Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore contacté, mais ça va venir. Mais bon, je le connais suffisamment bien et je pense qu'il me prêtera une oreille attentive. Bon, après, on est au niveau du ministère, donc ça sont des grandes paroles d'ordre général. Moi, ce qui m'intéresse plus, ce sont les acteurs du quotidien, c'est-à-dire les agriculteurs qui, tous les jours, ont besoin de cette eau pour arroser leurs cultures, pour nourrir leurs animaux, qui, ne l'oublions pas, nous nourrirons par la suite.
Justement, donc les conséquences peuvent être terribles si nous manquons d'eau et que les agriculteurs ne bénéficient plus de cette ressource en eau. C'est là-dessus aussi que vous alertez.
Oui, j'alerte et aussi sur la récupération de l'eau, parce qu'on consomme, on pompe de l'eau, mais on peut réutiliser de l'eau, ce qu'on appelle les eaux grises, qui sont les eaux de lavage de nos maisons. On peut les récupérer, on peut récupérer de l'eau de pluie quand il en tombe, c'est-à-dire la stocker au moment où elle tombe, et pour pas qu'elle parte dans la mer. Donc il y a tout un système de gestion qui doit être mis en place, et c'est là-dessus que je vais alerter. Comme je disais tout à l'heure, on ne va pas faire pleuvoir. Hein. J'ai beau essayer tous les matins, mais il ne pleut pas pour autant.
Mais c'est à titre individuel, mais aussi au niveau de chaque commune qu'il faudrait agir. Est-ce que ça coûte cher ?
Alors, c'est d'abord, ça coûte cher parce qu'il y a des installations à monter. Tout le monde a plein d'idées. Moi, mon rôle, c'est d'interpeller, c'est de montrer ce qui existe. Pas dire, pas donner des solutions. Les solutions, c'est les autres qui vont les donner. C'est les utilisateurs qui doivent les donner. Mais simplement les solliciter et faire en sorte qu'ils prêtent justement une oreille attentive à ces dégâts qu'on rencontre, que moi je rencontre en allant faire mes photos.
Comment justement, à travers vos photos, comment concrètement, quel type de photos ? Est-ce que vous avez un exemple ?
Alors, ce sont souvent des photos malheureusement assez tristes. Hein, quand on voit dans les restes d'eau, par exemple, au pile des ponts l'été dernier, avec des poissons qui errent, certains sont déjà morts, le ventre à l'air, et d'autres qui errent enfin pour essayer de trouver de l'eau potable. Ça sont des photos qui font mal quelque part. Quand on voit des animaux migrateurs, des oiseaux migrateurs en particulier qui viennent nicher sur le bord de la Loire et qui crèvent aussi au soleil des canicules qu'on a pu avoir l'an dernier, ça sont des photos. Alors il ne s'agit pas de faire dans le pathos en permanence. Il y a des belles vues de la Loire aussi. La Loire, c'est un fleuve magnifique, c'est un fleuve de sable, mais qui reste quand même magnifique. Mais il faut de temps en temps glisser de manière un peu subliminale des choses qui permettent de faire prendre conscience.
Et où et comment seront diffusés votre documentaire et votre exposition de photos et dans quel délai ?
Alors, normalement, l'expo va sortir en septembre 2024. On a déjà pris rendez-vous avec la commune des Ponts de Cé pour l'ouverture de l'expo à Rive d'Art au Ponts de Cé. On travaille également sur une expo extérieure, c'est-à-dire des panneaux qui pourront être posés sur la mairie, sur un pont.
Qui tourneront de commune en commune ?
Tout à fait. On va informer toutes les communes depuis la source jusqu'à l'embouchure et celles qui voudront utiliser à des fins pédagogiques aussi, puisqu'on veut aussi que ça soit pédagogique, c'est-à-dire que les enfants soient informés de l'histoire de la Loire, de sa gestion politique, économique, au travers de cette exposition et surtout du film documentaire. Donc on va informer toutes les communes pour qu'elles puissent l'utiliser, mais ça peut être aussi d'autres structures, des entreprises, des associations de défense par exemple.
Et le documentaire, il sera visible comment ?
Alors on va d'abord le projeter également au Poncé ce jour-là, et après il sera diffusé sur les réseaux sociaux, et si une chaîne de télé est intéressée, bah, on se fera un plaisir de le diffuser sur une chaîne de télévision. Maintenant, ça, c'est un autre problème. Mais pour l'instant, on le fera circuler dans des salles. Il sera au format salle de cinéma. Donc, on pourra le diffuser dans des salles de cinéma.
Et vous êtes tout seul sur ce projet ?
Non, on est deux. J'ai un ami qui s'appelle Mario Fournier, qui est un photographe engagé, qui travaille beaucoup sur les déchets jetés dans les rivières, et qui m'a rejoint. Et donc, on va travailler tous les deux.
Pour finir, Yannick Sourisseau, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment participer financièrement à votre projet ?
Alors, le projet qu'on a lancé sous forme de financement participatif sur la plateforme Ulule ne finance qu'une partie du projet. C'est un projet qui coûte près de 20 000 euros et, dans son ensemble. Et donc, ça ne finance que l'exposition, c'est-à-dire les 75 panneaux qui seront exposés en intérieur. Cette plateforme permet de collecter des dons et de nous aider à financer le tirage et l'encadrement des photos. Alors, c'est disponible sur la plateforme Ulule. Je ne vais pas donner l'URL parce que ça va être un peu compliqué à retenir pour les auditeurs, mais il suffit d'aller sur Ulule et cette plateforme bien connue et de chercher la Loire dans tous ses états, et à ce moment-là on trouve le lien facilement.
Yannick Sourisseau, merci.
Merci.
Je t'en prie.
2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. La France est considérée pourtant comme l'enfant gâté de cette ressource parce qu'elle a un réseau fluvial considérable. L'eau et son assainissement, c'est l'objet de la conférence de l'ONU qui a lieu aujourd'hui à New York avec 40 pays. Voilà, une petite virgule. Et on continue, c'est tout près d'Angers, au château du Plessis-Massé, que vous nous emmenez, Minouche. C'est la fin du festival Très tôt en Seine, me semble-t-il. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler, Minouche ?
Ah ben oui, Bénédicte, hein, nous allons clore ce festival avec Emmanuel Dupont, directeur du Plessis-Massé, et découvrir les événements qui vont continuer la saison au château. Emmanuel Dupont, bonjour.
Bonjour.
Bon, il reste un peu de temps pour ce festival Très tôt en Seine ?
Alors, il reste un petit peu de temps, surtout une très belle soirée qui sera le 24 mars à 20h30.
C'est-à-dire après-demain.
Exactement, qui vient vite, mais il nous reste de la place. On est avec la compagnie I et le spectacle, en fait, Les Époux, un texte de David Lescaut qui parle de la fin des époux Ceausescu. Alors, présenté comme ça, ça fait frémir, mais au final, c'est très satirique, c'est très drôle, c'est très bien porté au plateau. C'est une pièce qui dure à peu près 1h15, et vraiment, on suit un peu voilà, tous les événements qui vont arriver, et comment les personnages le vivent, en fait, directement. Et c'est vraiment quelque chose de très fort sur, à la fois, une fin de cycle politique, clairement, sur une vision du monde, mais avec beaucoup, beaucoup d'humour dans le texte, en fait. David Lescaut, c'est vraiment un auteur, en fait, qui sait manier la langue, et qui sait amener, en fait, voilà, ces personnages à aller au bord de la rupture pour les faire revenir après un petit peu les pieds sur terre. Mais c'est vraiment un spectacle qu'on avait envie en fait de récupérer sur la clôture, et puis on terminera par un groupe qui est porté en partie par le Chabada, en fait, qui est un peu un groupe mixte qui vient des Lions pour des Lions et des Loire-Vallée Calypso, Elisabeth Daponce. Donc on a des artistes en fait des deux formations, et ce sera le concert de clôture en fait vendredi soir.
Bien, donc il reste des places, chers auditeurs, donc n'hésitez surtout pas. Et puis on va se diriger un petit peu vers la saison touristique qui va débuter en Anjou. Elle représente quoi cette saison pour le Plessis-Massé ?
Alors c'est une belle saison, en fait. C'est vrai que le Plessis-Massé est devenu un lieu un peu protéiforme. C'est un lieu très malléable, en fait. Moi j'aime bien définir comme un petit laboratoire, en fait. On met pas mal de choses en place. On avait la Journée mondiale de l'eau aujourd'hui, en fait, Yannick, qui était dans nos murs. On avait pas mal de choses d'organiser pour faire comprendre, sensibiliser le public, en fait, et au détour de différents différentes thématiques. Là, notre saison, en fait, elle se distingue en deux temps, en fait. Un temps de découverte en basse saison pour le grand public, avec des actions de visite et de médiation classiques, et un temps pendant les vacances, principalement pendant les vacances, en fait, donc les vacances de printemps, pour les familles de 3 ans à 12 ans, en fait, avec des activités qui sont ciblées, qui leur permettent de s'immerger totalement, en fait, voilà, dans l'atmosphère du Moyen-Âge. C'est drôle, c'est enlevé, et ça permet vraiment de participer en famille, en fait, et de partager des moments, en fait, ensemble.
Je peux témoigner parce que moi, j'y suis allée aux vacances de la Toussaint avec mes petits-enfants et on a passé un délicieux moment. Donc vraiment, je vous incite à y aller, c'est magnifique. Et puis, on se retrouve costumés, c'est génial. Oui, voilà, vraiment génial.
On ne se prend pas trop au sérieux, en fait, au Plessis-Massé.
Non, c'est très bien. Dites-moi, enfin, pas trop au sérieux, vous accueillez quand même le Festival d'Anjou.
Tout à fait.
Alors
mais le Festival d'Anjou, Seigneur, parfois, ne se prend pas trop au sérieux.
À Seigneur tout honneur.
Tout à fait.
Ça correspond à quoi pour vous ? Qu'est-ce que vous faites pour le festival ?
Écoutez, le Festival d'Anjou, pour nous, en fait, c'est vraiment le gros temps fort de l'année. Il faut rappeler quand même qu'on a l'équivalent de 15 à 20 dates chaque année chez nous, avec l'équivalent de 20 000 spectateurs. Donc, c'est vraiment le flux de public le plus conséquent. Il faut imaginer qu'il y a 80 personnes qui tournent, en fait, et qui gravitent autour de ce festival en tant qu'intermittent du spectacle, en tant qu'administrateur, chargé de la production, de l'accueil des compagnies. Différents métiers qui vont faire que cette grosse machinerie puisse se mettre en place et permettre en fait aux spectateurs de découvrir des spectacles, des petites pépites. On a un nouveau directeur artistique depuis 2 ans maintenant, en fait, Jean-Robert Charrier, qui nous a fait vraiment en fait beaucoup de belles surprises en termes de virage artistique l'année dernière. Il en prévoit beaucoup d'autres cette année. On a hâte de vous les présenter. Ce sera à partir du 6 avril. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, parce que déjà, en fait, l'écrin s'est apprêté pour ça. En fait, il est transformé. Ce qui se visite habituellement se transforme en loge pour les artistes, par exemple, ce qui accueille les entreprises, les séminaires, pour les mariages, que plutôt des soirées, en fait, voilà, pour les spectateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet au château de faire résonner, en fait, voilà, le pouls du château.
Vous avez dit combien de dates, à peu près ?
Environ chaque année, ça varie entre 15 et 20 dates, en fait.
Voilà. D'accord. À partir du 6 avril, on pourra savoir ?
Vous pourrez enfin savoir.
Enfin savoir.
Tout à fait.
Bon, alors, on a parlé ensemble d'un temps fort qui aura cet été, tout en dehors du festival, hein, une expo.
Alors,
je vous laisse nous en parler.
Exactement. Depuis l'année dernière, on s'est interrogé beaucoup sur ce qu'on pouvait offrir en plus au public pour découvrir un château comme le nôtre, en fait. Et pour faire que les gens puissent prendre le temps. Depuis le Covid, en fait, on s'est beaucoup interrogé sur cette notion de prendre le temps et de faire que les gens puissent profiter du lieu. En fait, on a dans notre ADN, en fait, la valorisation du patrimoine. Et dans ce cadre-là, pour dépasser la simple découverte du site, on a mis en place, en fait, une proposition d'exposition. On a démarré avec de l'urbex l'an dernier, en fait, donc le fait de découvrir des lieux, des vestiges oubliés. On a un artiste qui s'appelle Jean qui nous a mis à disposition ces tirages. En fait, on a eu une expo immersive parce qu'on aime bien plonger dans l'atmosphère et dans l'ambiance. Vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, ça est le cas pour d'autres activités qu'on peut faire, Murder Party, Escape Géant. Pour les expos, c'est pareil. C'est-à-dire, l'idée, c'était vraiment de plonger, en fait, dans une espèce d'atmosphère, en fait, avec un bus abandonné en plein milieu d'une salle. On ne sait pas comment il était arrivé là. Cette année, on est reparti sur la même chose en immersif, mais là, ce sera sur les cités minières. Ça s'appelle Mémoire Industrielle. C'est une expo qui a été créée l'année dernière à la demande du département de Maine-et-Loire, qui est portée par le département et qu'on a travaillé avec eux pour vraiment l'intégrer, en fait, dans notre espace qui fait à peu près 200 mètres carrés. Et on est très content d'accueillir. On a 3 photographes qui sont présents dans cette expo et l'idée, c'est de se plonger justement dans cette mémoire. Nous, il y a un volet patrimonial qui nous sert. Et on insère, et c'est le cas aussi de mon collègue au département, donc Thierry Péloquet, qui est en charge du service de la conservation, d'aller sur ce terrain d'une saison photographique. En fait, la photo, elle a quelque chose de très grand public. Elle a quelque chose aussi du volet de la mémoire, en fait, du patrimoine et de l'imaginaire. Et tout ça réuni, nous, ça nous plaît beaucoup au château parce que ça nous permet d'aller plus loin et de faire que les gens prennent le temps à savoir ce qu'il y a derrière la photo. Et c'est ça qui nous intéresse.
D'accord, donc 3 photographes, vous pouvez nous parler d'eux ou...
Alors, on a Armelle Mogin, en fait, qui est la photographe du département, en fait, qui a travaillé sur des portraits, des témoignages, en fait, de famille ou de membres de la famille, en fait, voilà, de ces mineurs, en fait, qui existaient. On a Sylvain Dufard, en fait, qui a émis des tirages, en fait, qui sont très intéressants sur avant, après, sur des espaces, en fait, voilà, ça ressort sur le côté inventaire patrimonial. patrimonial, du paysage en fait et de la transformation. Et surtout, on a une très belle collection d'un photographe qui est décédé qui s'appelle Christophe Melois. C'est un noir et blanc. Vraiment, en termes de tonalité, les photos elles sont magnifiques en fait. On est plongé en plein dedans. Et le travail, que je vous montrerai pas parce que ce sera la surprise, il faudra venir voir cet été. Le travail qui sera fait pour les mettre en valeur sera vraiment très précieux en termes de mise en lumière, d'immersion. Ça permettra vraiment d'avancer au fur et à mesure.
Donc beaucoup de projets sur le château du Plessis-Massé. Emmanuel Dupont, merci et à une prochaine fois avec plaisir.
Eh bien, écoutez, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Merci à vous.
C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Émilie pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
À retrouver sur le www.radiocampusangers.com.